Cosé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Ritzamarum Zetren sur RFI.
Je vous ai promis de vous présenter dans ce programme les nouveaux visages de l'art haïtien ou ceux qui en représentent l'avenir. Je vous ai présenté Schneider Léon Hilaire, c'est probablement le plus brillant parmi les artistes émergents de ce pays, et Berthaud Jean-Pierre qui est lui aussi un immense artiste dont l'œuvre aura certainement un écho mondial. Dans cette émission, je vous propose de découvrir une jeune femme de grand talent, une artiste extraordinaire qui a déjà marqué les esprits avec ses toiles d'une singularité remarquable. Anaïs Hector est née au début des années 2000 à Port-au-Prince, mais son art fait montre d'une grande maturité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Cosé Kilti. Bonsoir Anaïs Hector.
Bonsoir.
Un plaisir de vous accueillir dans Cosé Kilti. Merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Et je suis très heureux de vous accueillir puisque c'est pour la première fois qu'on se parle dans ce fauteuil invité. Comment ça va votre âme d'artiste dans ce contexte particulier que vit le pays?
Ça va mal. Que mon âme d'artiste souffre énormément parce que c'est pas évident de créer dans le contexte. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça te donne la matière à créer. Mm-hmm. La souffrance, les émotions fortes, que ce soit la souffrance, mais aussi les petites joies parmi les mauvais jours, ça te donne la matière, ça te donne les sujets, ça te donne les thèmes, ça te donne l'inspiration qu'il faut pour créer, mais ça te donne pas la paix pour t'asseoir et créer. Et donc là, c'est comme une dichotomie entre les idées qui te viennent, entre les choses que tu as à dire, parce qu'il y a plein de choses à dire, et la réalité où il faut vraiment travailler, et l'ambiance qu'il faut pour travailler. Donc c'est vraiment ça qui est compliqué à balancer. Donc c'est pour cela que je peux dire que mon âme d'artiste souffre.
Vous avez grandi dans une ville de Port-au-Prince qui est toujours en proie aux troubles sociopolitiques, mais on peut dire que la situation n'a jamais été aussi grave dans le pays. Et si vous nous parlez de votre enfance, est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers de votre enfance qui vous marquent encore aujourd'hui?
Souvenirs d'enfance qui m'ont marqué en tant que personne, je vais dire c'était les samedis avec mes parents. En fait, à la base, on vivait à Dema 24, un corridor qui s'appelait Bravo les gars. Donc, ça m'affecte encore plus parce que cette zone n'existe plus, mais n'est pas praticable. Et les samedis, il y avait de la musique. Et puis, mon papa, il nettoyait, ma maman cuisinait. Et puis, moi, je devais aider aussi, je devais essuyer les meubles. Et je pense que ça m'est resté comme image de famille ou un truc de ce genre. Ça m'est resté la musique et tout le monde est occupé, tout le monde fait quelque chose. Et je pense que c'est de la joie où je peux puiser lors des jours difficiles. Et pour les souvenirs de fin, je vais surtout parler de mes parents, ok? Quelque chose qui m'a marqué en tant qu'artiste, je pense que mon père, il avait un grand-parent qui savait peindre, une tante. Donc, du coup, il m'avait fait une aquarelle pour une maison de poupée. C'était un tableau pour une maison de poupée, c'était une toile. C'était un simple paysage avec une montagne. C'était beau, je trouve que c'était beau, je trouve que c'était magnifique. Et c'est la première fois que j'ai vu les couleurs et je me suis dit, mon Dieu, j'ai envie de faire un truc de ce genre. J'ai envie que les couleurs puissent dire des choses de ce genre. Donc, je pense que c'est ces petites choses qui ont titillé ma sensibilité d'artiste et qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui.
Vous êtes désormais une artiste confirmée et qui a beaucoup de talent. Et à côté de votre carrière d'artiste, vous êtes aussi étudiante en psychologie.
Oui, je suis étudiante en psychologie à la Faculté des sciences humaines. En dernière année. C'est un choix que j'ai fait par rapport à mon vécu. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs psychologues pendant mon adolescence et jusqu'à présent, je suis en thérapie. Ces expériences m'ont émerveillée. Parce que quand tu vas à la thérapie et que tu comprends pas forcément, mais tu peux faire la différence entre le jour où tu es allé après, et je m'étais dit, c'est un truc que je vais faire. Je veux vraiment aider les autres. Je voulais remettre ce que j'avais reçu. Et je voulais comprendre les personnes parce que c'était fascinant pour moi de voir comment les personne fonctionne, pourquoi il fonctionne de cette manière, etc. Donc, je pensais sincèrement et je pense toujours que la psychologie, c'était quelque chose qui pourrait répondre à des questions et surtout m'aider à trouver un sens à la vie. Un sens à la vie, c'est-à-dire une contribution au monde, comme si je voulais vraiment travailler avec des personnes et faire en sorte qu'elles aillent bien. Donc, je pense que c'est pour ça que j'étudie la psychologie et que jusqu'à présent, c'est un choix que je ne regrette pas du tout. Et j'espère vraiment que le pays me donnera l'occasion de remettre mon mémoire et passer à la suite.
J'ai comme l'impression que c'est pas un choix qui est trop loin de celui que vous avez fait lorsque vous avez décidé de devenir une artiste aujourd'hui. Apparemment, vous avez réussi à marier tout ça dans votre vie.
Ok, la psychologie et là pour moi c'est pas différent dans ma vie. Ça se mélange et ça s'influence. Déjà, même pour mes cours de psychologie, pour certains devoirs, pour certaines dissertations, si je peux choisir un sujet, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'influence de l'art et la psychologie et de voir pourquoi les artistes existent. En fait, ça m'intéresse, c'est de savoir quels sont les processus psychiques pour créer et quels sont les rapports entre les émotions et les artistes, pourquoi les artistes sont toujours caricaturés comme tristes, comme des personnes à problème, etc. Et ce sont surtout eux qui font les meilleures œuvres. Et j'avais littéralement fait une dissertation sur ça où il y avait des recherches sur le fonctionnement du cerveau et que littéralement pour pouvoir créer, il faut un dysfonctionnement du cerveau. Et c'est pour cela que, comme s'il y a un grand rapport entre la schizophrénie et la création artistique, etc. Et ça m'avait passionné. Je m'étais dit, ok, ça va être mon sujet pour la suite. Mais également, la psychologie m'aide à découvrir l'art différemment. C'est-à-dire que j'ai une plus grande sensibilité à écouter les autres et pouvoir transformer ça en image. Et également, les thèmes que j'ai envie de traiter sont des thèmes qui sont liés un peu à la psychologie. Par exemple, je me rappelle que j'avais une idée d'œuvre que j'ai commencé mais qui n'est pas terminée, qui s'appelle refoulement. Et c'est un terme par rapport à la psychanalyse, donc par rapport aux idées que tu t'empêches d'exprimer. Je voulais pouvoir parler de ça. Donc, les thèmes sont là, ils se mélangent, ils s'influencent et me guident pour chaque étape.
Et après vos études classiques, vous êtes dirigé, comme beaucoup de grands artistes du pays, vers le centre d'art. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'imagine que vous étiez sûr de vous, vous étiez sûr que vous vouliez devenir une artiste professionnelle, si vous permettez. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à prendre cette voie?
Je suis allée au centre d'art parce que je n'avais rien d'autre à faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un plan bien défini dans ma tête. Je m'étais dit que j'irais étudier à l'étranger. J'avais obtenu des bourses. J'avais fait d'autres démarches. Et puis au final, rien n'a fonctionné. Parce que j'étais tellement sûre que je ne serais pas en Haïti que je n'avais même pas appliqué pour des universités en Haïti. Je n'avais pas fait de pré-fac, etc. Donc je me suis retrouvée sans fac en Haïti. Mais j'avais dit à ma maman, si ça ne marche pas, mon plan A, je vais passer une année à faire de la peinture. Et comme par hasard, j'étais allée voir un ami à Kiskia et il y avait une affiche du centre d'art. Je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas ce que c'était ni l'ampleur de cette institution. Et je m'étais dit, ok, je ne savais tellement pas que j'ai vu le cours, je crois que c'était un cours à Kiskia qui s'appelle Centre d'art. Et je suis allée avec mon âge, je suis allée m'inscrire à Kiskia pour dire je vais m'inscrire au Centre d'art. Donc ça c'était ridicule. Donc au final, j'ai appelé le numéro et puis on m'a expliqué l'adresse. Et je suis allée pour la première fois, je crois que j'étais reçue par Judith Michel. Et c'est là que je me suis inscrite, je m'étais dit, ok, donc ça va, ça corrobore avec mon plan B. Et c'est en fréquentant le centre d'art que je réalisais qu'il y a des artistes, il y a des gens qui font ça de leur vie. Pour moi, c'était pas imaginable. C'était quelque chose que je voulais faire, bien sûr, mais j'avais jamais cru que ce serait quelque chose que je pouvais gagner de l'argent avec. Ou encore, comme si je savais pas c'était quoi une résidence artistique, je savais pas les opportunités que pouvait apporter l'art. Et je pense que avec mon premier cours, je crois que c'était avec Mafalda, Mon Destin. Et j'ai été passionnée de les première minute du cours et je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, je veux faire ça de ma vie. Et je m'étais dit que j'ai pas choisi. Du coup, j'ai fait là et j'en ai profité aussi pour pour composer pour la faculté des sciences humaines pour MOS parce que j'avais raté la session de septembre. Et du coup, j'ai pu chialer de ça. Ça m'a fait vraiment plaisir et je suis contente d'avoir fait ce choix.
J'imagine que l'expérience du Centre d'art a été une très belle expérience.
En gros, oui. En gros, oui. Définitivement, parce que ça m'a permis d'ouvrir mes perspectives. Ça m'a poussé à particulièrement Judith Michel qui m'a porté parce que il y avait une période où j'étais vraiment pas sûre de moi. Je savais même pas ce que je faisais, mais en fait, Judith Michel elle avait vu mes œuvres pendant les cours et puis elle m'avait parlé de session de mentorat. Il y avait des grands artistes, c'est la première fois que. Par exemple, il y avait un jury avec Mafalda Mondestin, il y avait Fonzie Frère, mais il y avait Mario Benjamin, etc. Et puis il y avait 6000, et c'est là que je découvre les personnes. Et j'avais peur, mais j'étais contente qu'on ait vu le potentiel parmi tous les élèves et qu'on m'avait contacté pour présenter mon travail, pour expliquer mon travail. Et c'est là que j'ai aussi rencontré Schneider, j'ai rencontré Biato, j'ai rencontré Ivinsky. C'était vraiment super parce que je réalisais que peut-être j'avais ma place. Parce que là, j'avais encore des doutes sur mes capacités, sur ce qu'on attendait, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure, les opportunités sont venues. Par exemple, lorsqu'il y avait...
Il y avait le fonds pour la création visuelle en 2023.
Oui, non, ça c'est nettement plus tard. Là, c'est nettement plus tard. Mais là, c'était encore avec Justine Michel qui m'avait donné l'opportunité de travailler pour une expo au Centre d'art. Parce qu'elle avait choisi 5 étudiants pour exposer. C'était là qu'il y avait... Okay. On était... Parce que moi, Schneider, Léonidas, c'est ma fierté. J'ai trop bien. Je suis tellement fière de ce morceau. Okay, parce qu'à chaque fois que je peux dire que j'ai rencontré ce type, je lui ai parlé, j'ai exposé avec lui. je suis fière. Okay, je suis fière.
C'est bien.
OK. Il y avait Schneider, il y avait Ivinsky, il y avait Biato, il y avait Reggie et moi. Donc, on était les 5 qui exposaient au Centre d'art. C'était, je crois, en 2020-2021, je ne me rappelle plus la date. Et c'était la première fois où j'avais vraiment l'occasion de travailler pour une expo. Et me dire que mon travail va être vu. Et ce n'est pas un cadeau. Parce qu'à chaque fois, je dis qu'elle venait, elle regardait, elle disait « Ok, ça va. » Donc là, vraiment, je me suis dit « C'est une porte ouverte pour beaucoup plus. » Et j'ai vraiment pris un moment.
Vous aimez peindre des nus. Et j'ai vu quelques-unes de vos toiles. On peut dire que la nudité est un sujet qui vous passionne, en particulier le corps de la femme.
La nudité m'intéresse parce que j'ai toujours vu la nudité comme une certaine liberté, comme un affranchissement des normes, comme la version plus pure de soi. Et pour moi, là, c'était la manière de présenter la version la plus pure de soi. Et... quelle plus belle manière de le présenter que nu. Ok, et comme je suis une femme, que c'est moi que je présente dans mes œuvres, donc c'était tout évidemment que ce serait des personnages féminins nus parce que je parlais de moi, je parlais de ce que c'est pour moi d'être une artiste femme. Et du coup, par rapport à ça, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé les premiers morceaux de ma démarche artistique, c'est ça. Et je pense que ça, et au fur et à mesure, je pense que cette démarche, elle évolue. Et j'aime comment est-ce qu'elle évolue, honnêtement.
Est-ce qu'il y a des modèles?
Ce qui m'a donné le culot de le faire, en fait, parce que j'avais peur. Je m'étais dit, c'est mon corps, je suis une femme, est-ce que ça ne va pas être mal vu? Quelles sont les conséquences de faire ça? Et puis j'ai vu une œuvre de Tessa Moss, Et je me suis dit, mais c'est elle. Et je me suis dit, mais elle le fait. Et puis, elle le fait, quoi. Et puis, ça m'a donné le courage, ça m'a donné la force, ça m'a donné le culot de faire. De me dire, OK, il n'y a pas à avoir peur de ma propre toile, il n'y a pas à avoir peur de m'exprimer déjà. Déjà, il y a la peur de parler partout. Ce serait vraiment triste d'avoir peur de peindre. Donc, je pense que Tessa Moss m'a donné le truc en plus pour oser faire les nus. Mais je pense que la plus grande influence vraiment qui me poussait à peindre moi-même, c'est Frida Kahlo. Parce que cette dame-là, c'est une icône. Et j'adorais le fait qu'elle se peignait elle-même. J'aime l'idée d'être sa propre. De sa propre muse. Et j'aime aussi l'idée que ses œuvres étaient franches, comme si il faut un dépassement de soi pour pouvoir s'exposer autant et le présenter au monde. Et moi, j'étais juste émerveillée par ce courage, par le fait je connais pas Frida Kahlo, comme si elle n'est pas de ma génération et tout, mais rien que pour ses œuvres, tu as l'impression de la reconnaître, ou bien tu as l'impression qu'il y a quelque chose, tu sens sa souffrance, tu sens ses joies, tu sens ce qu'elle aime, tu sens ce qu'elle n'aime pas, rien qu'en regardant ses œuvres. Et je trouve que toute cette franchise, toute cette honnêteté d'âme, je voulais l'explorer, je voulais le découvrir, le partager également.
Est-ce que pour vous, l'art, c'est se révéler aux autres?
Je pense que l'art, c'est se révéler à soi-même, déjà. C'est parce qu'on découvre plein de choses, mais c'est aussi s'exprimer. L'idée de le partager aux autres, c'est autre chose, parce que les gens vont voir ce qu'ils veulent voir. Les gens vont se découvrir eux-mêmes par rapport à ton travail. Ils ne vont pas forcément te voir toi. Okay? Parce que dans mon travail aussi, j'avais fait une recherche sur la manière de recevoir les œuvres, et que les gens recevaient les œuvres par rapport à leur histoire, leur données de base, leur manière de percevoir le monde. Donc, comme si c'est ce que j'aime en fait avec l'art, c'est que la conversation que ça apporte. Je sais très bien que lorsque je fais une œuvre, je sais ce que je veux dire, j'ai dit ce que j'ai à dire, mais c'est parce que tout le monde va comprendre et j'ai pas la prétention de faire comprendre exactement ce que je voulais dire. J'aime que mon œuvre puisse faire sentir quelque chose et mener à la conversation.
Qu'est-ce que signifie être artiste pour vous?
Ok, pour moi, être artiste, c'est être libre. Et c'est vraiment difficile de se sentir libre, particulièrement dans le pays, mais particulièrement en tant que personne. Je ne sais pas, c'est être libre, mais en fait, j'aime dire ça parce qu'en tant qu'une femme noire-caribéenne, j'ai conscience de l'histoire, de mon histoire. Et j'ai conscience que le monde n'a pas été conçu pour que je sois libre. Et qu'à chaque fois que j'ai l'opportunité d'exprimer cette liberté, c'est une révolte, en fait. C'est une révolte et c'est assumer son existence et l'exprimer, et se dire qu'on est là et de ne pas le prendre pour acquis. Parce que j'ai conscience qu'à une certaine période, je ne serais pas artiste ou je ne serais même pas une personne. Je ne serais même pas considérée comme une personne. Donc, pour moi, là, c'est une façon de prouver que je suis, de montrer que je suis et d'avoir la liberté d'être. Et je trouve que pour moi, c'est un acte de révolte, c'est un acte de résistance, c'est un acte d'épanouissement. Et ça permet juste d'être le plus sincèrement possible et dans un monde qui forcément n'existait pas pour que tu sois.
Vous venez d'être sélectionné pour une bourse de création dans le cadre des résidences vers le sud. Est-ce que, si vous permettez, est-ce que vous pouvez nous dire le projet sur lequel vous allez travailler?
Le projet que j'avais proposé pour les résidences vers le sud, c'est un projet qui me tient à cœur, qui me tient dans les tripes, qui me tient dans l'âme. Et ça me chagrine un peu que je vais le réaliser dans les conditions dans lesquelles je vais le réaliser. C'est un projet qui s'appelle Nos ailes et racines de papier. Je voulais parler de l'immigration, mais pas dans le fait, dans les termes quantitatifs ou sociologiques, mais je voulais parler des ressentis. Je veux parler de la décision que c'est de choisir de partir ou de rester. Parce que tous les jours, je suis face à ce choix dans ma vie. Comme si tu te demandes, il y a des jours, tu te dis, non, je veux rester, etc. Mais il y a des jours, tu te dis,
je dois partir.
Voilà, donc, et ça te déchire, ça te déchire. Et je voulais parler de ce déchirement, je voulais parler de. C'est pas aussi simple qu'on le croit de quitter son pays, d'aller recommencer ailleurs. Et ce n'est pas simple non plus de rester, d'assumer ce choix. Et c'est par rapport à ce déchirement, ce cri que je ressentais et que je voyais tout le monde ressentir autour de moi et parler de ça. Et je voulais particulièrement faire une œuvre là-dessus, sur le ressenti, sur la peur, sur les doutes, sur l'envie de rester, sur l'amour du pays, mais en même temps le désarroi. Et je voulais mettre tout ça en œuvre. Et je vais le faire. Je vais le
Bien
faire.
évidemment.
Je vais le faire. Mais c'est que j'avais tellement planifié de le faire dans. Comme si j'avais à la base une résidence artistique. Donc j'avais imaginé que je serais au calme, que je serais ailleurs et que je pourrais mieux penser sur l'œuvre. Là, je travaille chez moi, mais en même temps, de temps en temps, on peut le tirer dans le lac. OK, comme si les conditions ne sont pas les meilleures pour me donner au maximum, pour faire le maximum de ce que je voulais faire. Mais en même temps, c'est pas, je pense que les œuvres seront à la hauteur de ce que, du projet.
Tout à l'heure, j'ai mentionné le fonds pour la création visuelle en Haïti, auquel vous avez été sélectionné en 2023. Vos œuvres ont été exposées à la Maison du Fort. Et c'est un moment, j'imagine, qui a été marquant dans votre vie d'artiste.
Oui, parce que le moment marquant, c'est d'avoir vu que j'avais été sélectionnée surtout. C'était parce que c'était un appel à la création, mais c'était un fonds pour la création avec l'ambassade de Suisse comme partenaire. Et je me suis dit, bon, si ils aiment bien mes œuvres pour ça, c'est que c'est peut-être un pas vers l'international, ok, parce que littéralement je suis nadie l'Emilia, donc je suis très fière avait participé à celui de l'année précédente, et ça m'a motivée par rapport à cette exposition. Beaucoup de portes sont ouvertes pour lui, et je m'étais dit que ok, là ça c'est une grande étape. Et lorsque j'ai été sélectionnée, je me suis dit, ah, ok, mon travail veut dire quelque chose. Ok, comme je suis là, ils vont me donner de l'argent pour travailler. Donc, je dois revenir quelque chose d'intéressant. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir exposer ces œuvres qui ont été très difficiles à réaliser. Et c'était un. Je pense que le meilleur, après cette exposition, je pense, c'était les personnes qui sont venues me parler. Comme si par rapport au ressenti qu'elles ont eu sur les œuvres, il y a des personnes qui ont eu le courage de me partager leurs histoires de violence et de se dire qu'elles se sont reconnues, qu'elles se sont senties écoutées, qu'elles se sont senties moins seules. Et c'était le but, c'était le but des œuvres. Et là, je me suis dit, OK, Paris est ici. Et que j'ai encore gagné en confiance, en fait.
On voit, quand vous parlez, le lien, le rapprochement avec la psychologie dans votre œuvre. C'est remarquable. Est-ce que vous avez un rituel pour créer Anaïs Hector? À quoi ressemble une journée dans votre vie d'artiste?
Je n'ai pas encore eu de journée de vie d'artiste parce que je dois partir travailler. Je dois faire la vaisselle et me ranger. Et ensuite, lorsque il faut vraiment travailler, la nuit, j'essaie de trouver un temps. Donc, je n'ai pas une journée d'artiste. Malheureusement, mais j'espère que ça viendra.
On espère.
Oui. Mais pour peindre, la première chose, c'est mettre de la musique. C'est vraiment, c'est très important. Mettre de la musique et du jazz, c'est pas ça, ça va dépendre du mood. Ok, mettre de la musique et prendre une grande respiration. Et c'est ça surtout. J'ai pas un grand rituel, même si je vais commencer. Je vais pas te cacher, j'ai commencé parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où je voudrais avoir un certain contexte pour travailler, etc. Donc, je m'étais dit que je vais me créer cet espace. Et le fait de m'être dit que je vais me créer cet espace, je me suis dit, je vais aller un petit peu extra. Et j'ai décidé de m'acheter des bougies pour fumer, de m'acheter de l'encens, etc. Des trucs là qui font de ouf. Okay. Donc, j'ai pas encore essayé. Donc, je peux pas dire que c'est mon rituel. Ok, mais à la base, c'est juste la musique. Et puis, voir l'œuvre et puis travailler. C'est ça, c'est juste. Et ne pas boire de l'alcool. Il faut pas boire de. Pour moi, je n'aime pas ça. Il y a un conseil que je suis d'un peintre, ok, qui m'avait dit, qui nous avait expliqué qu'il ne, Pasco, ok, qui nous avait dit qu'il ne faut pas utiliser de substance pour le travail, sinon il faut à un moment donné ton travail sera dépendant de la substance. Et je voulais vraiment pas tenter la chance d'être addicté à quoi que ce soit. J'ai pas les moyens de me payer une désintox. Donc j'ai vraiment pris l'habitude, parce que déjà rien que la peinture, ça me met dans un état de d'euphorie particulière, donc j'ai pas vraiment besoin d'autres
stimulants.
Exactement. Ça. Donc de l'eau, ça va, de l'eau à la rigueur du café. Et la bonne nourriture, il faut bien manger, il faut bien vivre, et ensuite tu peux peindre mieux. Je ne peins pas le ventre vide, ça c'est sûr. Mais après ça, je n'ai pas un rituel particulièrement compliqué pour l'instant.
Un message pour les jeunes femmes qui voudraient faire la peinture.
Un message pour les jeunes femmes qui voudraient faire de la peinture. Bon, il faut le faire. Je pense que si c'est quelque chose d'important, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est quelque chose qui vous aide à vous exprimer, il faut juste sauter le pas, mais il faut être consciente que les difficultés ne seront pas les mêmes et que être capable d'avoir suffisamment de motivation et de cœur pour faire ce que tu as à faire sans te préoccuper de tous les obstacles particuliers qui seront sur le chemin. C'est ça le plus important, c'est vraiment avoir un objectif, savoir qui on est, savoir ce que l'on veut et juste sauter le pas.
Anaïs Hector, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Merci à vous de m'avoir.
Solitude sauve les coups, mais tout ça me le dit ou quoi? Pas qu'on qu'elle dit, le sous un message, le héros, je m'aime. Ça qui gagne en ville pour qu'on y ait un peu. L'autre monde, on l'a dit, les biens fictions et beauté. Changer vie ou changer thème. Quand je sauve à la route, il y en a thème. À tête ou à pomper. Continuez à sourire parce que.
C'est une magnifique chanson qu'on vient d'écouter, Smile. Allez la retrouver sur le dernier album de Durkheim. Tous ces détails disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci à chacun de vous d'avoir suivi cette édition de Cause Equity qui touche à sa fin. Merci à nos partenaires, l'Institut français en Haïti et l'ambassade de France en Haïti. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter Cause Equity en podcast sur le site www.rfi.fr, mais aussi sur l'application RFI Pure Radio. Écoutez l'actualité générale en Haïti sur RFI. Ça se passe du lundi au vendredi à 8h10 dans le journal d'Haïti et des Amériques avec Anne Kantner. Moi-même, je suis Rizama Romzitren. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt.